BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 7h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Dans un contexte d'inquiétude de la City, les premières annonces d'Andy Burnham à Downing Street, il a choisi John Healey comme ministre des Finances, ce qui devrait rassurer les marchés. Ed Miliband atterrit aux affaires étrangères. On va faire le point sur ce gouvernement britannique avec notre correspondant à Londres dans un instant. Et puis, réintroduction des pesticides, simplification des normes, construction d'ouvrages de stockage d'eau. La loi d'urgence agricole a convaincu l'Assemblée. C'est une victoire pour les agriculteurs. Le Sénat doit valider aujourd'hui. On va voir ça dans le détail avec Nathan Cocampo. Les autres titres, Léo Dumas.
Donald Trump relance la guerre commerciale avec le Canada. Les canicules successives vont plomber les récoltes de blé. Et puis, la France est largement en avance dans l'installation des bornes de recharge électrique.
Dans la prochaine heure, on parlera de cette visite décisive à Washington ce mardi, celle du Premier ministre libanais Joseph Aoun qui va rencontrer Donald Trump avec comme carte maîtresse le désarmement du Hezbollah. Est-ce qu'il sera entendu par le président américain? On posera la question à Annalisa Capellini dans 15 minutes. Et puis, il préconise de modifier les horaires de travail pour s'adapter aux canicules, renforcer l'emploi des seniors, mais aussi solidifier la relation franco-britannique pour faire émerger des champions européens. Le haut commissaire au plan Clément Beaune sera avec moi dans le grand entretien. Ce sera à 7h45. Tous nos invités, toutes nos chroniques, la matinale de l'économie, c'est parti.
BFM Business, c'est aussi sur Internet. Connectez-vous sur bfmbusiness.com et suivez le fil de l'actualité économique.
Good morning business, le journal.
Et Andy Burnham a donc pris les rênes du Royaume-Uni, Léo.
Pour engager les changements les plus profonds de ces 40 dernières années, c'est ce qu'a dit le nouveau Premier ministre, en tout cas hier devant le 10 Downing Street pour sa première allocution avant d'annoncer son gouvernement. Tout ça sous l'œil toujours très nerveux des marchés. Sur place à Londres, le récit de Baptiste Muckensturm pour BFM Business.
Andy Burnham a reçu un accueil glacial de la City. Hier, les rendements des obligations d'État britanniques ont grimpé, surpassant les marchés européens, ce qui signifie que les investisseurs redoutent un dérapage des dépenses publiques. Et si la livre sterling s'est maintenue, eh bien le message des marchés est clair. La crédibilité budgétaire est entre les mains d'Andy Burnham. Et la moindre maladresse pourrait provoquer un séisme à la Liz Truss comme en 2022. Alors pour rassurer les investisseurs, le nouveau Premier ministre a créé la surprise avec un remaniement aux airs de purge pour les fidèles de Keir Starmer. Exit les figures du centre, place à l'expérience. Le choix stratégique de l'ex-ministre de la Défense, John Healey, au poste de chancelier de l'échiquier, est un signal fort. Ce vétéran du Trésor, respecté par le monde des affaires, devra rassurer les marchés tout en finançant un budget de la Défense troué de plusieurs milliards de livres. Shabana Mahmoud reste à l'intérieur après des succès sur la baisse de l'immigration clandestine, tandis que Ed Miliband prend la tête de la diplomatie britannique. Il relancera l'aide extérieure interrompue par Starmer. Les projets de nationalisation et de logements sociaux massifs n'ont donc pas été encore détaillés. Résultat, le marché obligataire reste, lui, aux aguets.
Baptiste Muckensturm pour BFM Business à Londres, où Andy Burnham a, comme de coutume, passé quelques appels à plusieurs dirigeants étrangers. Il a notamment assuré à Donald Trump de son engagement pour la défense et la sécurité du Royaume-Uni et de ses alliés, un échange salué dans la foulée par le président américain sur son réseau social. Donald Trump, qui par ailleurs annonce 50% de droits de douane supplémentaires contre le Canada. Le décret a été signé. Il cible les vins, le ciment, mais aussi les crosses de hockey exportées par le Canada, une violation directe de l'accord de libre-échange nord-américain, dénonce Mark Carney, le Premier ministre canadien qui se dit en droit de prendre des mesures équivalentes, mais aussi prêt à intensifier les discussions pour résoudre ce différend.
La politique aussi en France, Léo, et cette dernière grosse journée au Parlement avant les vacances.
Et l'adoption définitive de 6 textes qui est au menu aujourd'hui, notamment celui sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, après l'accord trouvé hier entre députés et sénateurs. Et puis, dernier vote à suivre au Sénat ce soir pour la loi d'urgence agricole, finalement validée en pleine nuit par l'Assemblée nationale après des heures de débats sous haute tension. Nathan Cocampo, le texte va bien réintroduire 2 pesticides qui étaient interdits. C'est ce qui a provoqué la colère de la gauche et c'est ce qui déchire le camp gouvernemental.
Oui, l'acétamipride et le flupyradifurone, après le vote définitif du Sénat aujourd'hui, ils pourront donc être réutilisés sur le territoire de manière dérogatoire et sous conditions strictes. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui donnera son feu vert. vert à certaines filières en difficulté selon donc la situation. Deux insecticides interdits en France mais autorisés en Europe. Et c'est de quoi provoquer de fortes tensions cette nuit lors des débats. Quasiment l'ensemble de la gauche a voté contre cette loi d'urgence agricole, mais pas seulement. Au sein du camp présidentiel, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, s'est elle aussi opposée à cette réintroduction. Sa démission est sur la table selon son entourage. Cette disposition de la loi d'urgence agricole rappelle la loi Duplon votée l'an dernier. Mais après une vague de mobilisation et la saisie du Conseil constitutionnel, le retour de l'acétamipride avait finalement été censurée pour des motifs constitutionnels.
La FNSEA, elle, salue un tournant majeur, Nathan.
Oui, le premier syndicat agricole se réjouit d'une prise de conscience de la situation critique que traverse aujourd'hui la ferme France, dans un contexte aussi de sécheresse exceptionnelle que connaît le territoire. Outre la réintroduction donc de ces deux pesticides, vivement demandés par la filière betterave par exemple, cette loi d'urgence agricole simplifie les normes, allège certaines procédures, accélère des autorisations de projets, renforce donc la souveraineté alimentaire. Elle permet entre autres de faciliter la construction d'ouvrages de stockage d'eau pour lutter contre les sécheresses, et vise à améliorer la rémunération des agriculteurs en leur donnant plus de poids dans les relations commerciales avec les industriels. Le texte sera donc examiné une dernière fois au Sénat aujourd'hui en vue de son adoption définitive.
Merci Nathan Cocampo. Et alors la sécheresse, elle fragilise cette année une fois de plus les récoltes, en particulier celles de blé. Selon l'Argus Média, ce sera clairement en dessous des attentes, notamment celles du gouvernement, Éline Le Faou.
C'est une mauvaise moisson pour les agriculteurs pour la quatrième année consécutive. L'été 2025 n'avait déjà pas réussi à récupérer le retard d'il y a deux ans, mais la production de cette année enfonce le clou. Plus de 30 millions de tonnes de blé estimées, c'est 4% de moins que l'année précédente. La sécheresse persistante y est pour beaucoup, mais aussi les fortes précipitations de cet hiver et les nombreux épisodes caniculaires. Seule note positive, la surface cultivée a augmenté de 3% sur un an, même si elle reste en dessous de la moyenne de ses 20 dernières années. Plus que le blé, c'est toute la filière céréalière qui souffre de ces changements climatiques. La production d'orge doit aussi baisser de 6% par rapport à l'année dernière. Une chute de 30% est attendue pour le maïs, le plus bas niveau depuis 26 ans. Marqué par 3 années de pertes, beaucoup de producteurs appellent à de nouvelles aides publiques. L'Union européenne et le ministère de l'Agriculture ont déjà annoncé des aides pour l'achat de fertilisants azotés face à la récente flambée du prix des engrais.
La France a de l'avance, c'est pas souvent qu'on le dit. Et là, c'est sur l'installation des bornes de recharge électrique.
Mais ça tombe bien au moment où le segment électrique à le vent en poupe, le calendrier est plus que respecté. C'est ce que nous dit une étude de l'ONG Transport et Environnement. Et c'est le cas d'ailleurs dans toute l'Europe, Justine Bassogne.
Longtemps, le manque de bornes de recharge aurait été un argument pour expliquer la faiblesse des ventes de voitures électriques. Aujourd'hui, celui-ci ne tient plus selon Transport et Environnement. La France a aujourd'hui rempli à 140% l'objectif fixé par l'Union européenne pour 2025, à savoir 1,3 kWh de recharge sur autoroute par voiture électrique. Des bornes réparties de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire en 2030. L'objectif fixé par Bruxelles est d'avoir des points de recharge rapide tous les 60 km, objectif déjà atteint à 87%. Tous les pays européens sont aujourd'hui en avance sur le calendrier. Seule Malte est encore à la traîne. À la fin de l'année dernière, l'Europe comptait plus d'un million de recharges publiques, 5 fois plus qu'en 2020. Quelques points noirs subsistent cependant. D'après Transport et Environnement, les prix au kilowatt ne sont pas toujours affichés sur les bornes. Autre problème, il n'est pas possible de payer par carte bleue sur certaines d'entre elles. Deux points qui seront rendus obligatoires à la fin 2027.
Et puis le BHV dévoile son plan de relance.
Oui, un mois après l'annonce du départ de Frédéric Merlin et avec lui du géant asiatique Chine, le BHV veut tourner la page. Son nouveau directeur général Karl-Stéphane Cotendin est parti à la reconquête des marques, un sujet qu'on entendra un peu plus tard dans la matinale.
Exactement. Merci beaucoup Léo Dumas. On vous retrouve pour le journal de 7h30. Les marchés tout de suite. Des marchés qui évoluent avec prudence face à la persistance du conflit en Iran, Nicolas Pagnaise.
Oui, c'est toujours un petit peu la thématique centrale sur les marchés, alors que la BCE se réunit également cette semaine en ce qui concerne les marchés européens. Mais tout d'abord, si je reviens sur l'impact du conflit en Iran, on voit que le baril de Brent est toujours aux alentours des 88$. Il était monté jusqu'à 90$ dans la nuit d'hier. Le WTI est lui aux alentours des 84$, ce qui a donné des marchés américains qui ont clôturé en repli. Le S&P 500 a clôturé en recul de 0,5%. 0,19%, le Dow Jones moins 0,60% et le Nasdaq très proche de l'équilibre. Du côté des marchés européens, le CAC 40 a clôturé à l'équilibre ou presque, un plus 0,02%, porté notamment par des valeurs comme ST Microelectronics qui a rebondi dans les semi-conducteurs, plus 2%, ou Total Energy porté par la hausse des cours du pétrole, plus 1%. Le DAX, lui, clôturé proche de l'équilibre également, mais en léger recul. Ces marchés européens qui sont dans l'attente donc de cette réunion de politique monétaire de la BCE, dont la décision sera rendue jeudi. La BCE, dont on s'attend à ce qu'elle laisse sa politique inchangée, mais dont le discours sera suivi de près pour deux raisons. D'abord, sur le volet de la hausse des cours du pétrole et l'impact de la recrudescence du conflit en Iran sur sa potentielle, les prochaines décisions de politique monétaire, pardon, mais aussi sur la potentielle suite de Christine Lagarde, alors qu'elle a laissé entendre il y a quelques jours qu'elle voulait peser dans le débat de la présidentielle française. Un mot toujours en Europe des marchés obligataires. On a vu hier les marchés obligataires anglais au Royaume-Uni se tendre pour le premier jour d'Andy Burnham en tant que Premier ministre, qui a notamment évoqué plus de dettes et plus de dépenses dans son premier discours, ce qui a fait également reculer la livre face au dollar.
Très vite, la saison des résultats continue avec notamment Ryanair, Nicolas.
Ryanair, qui fait état d'une légère augmentation de son chiffre d'affaires, mais d'une forte diminution de ses bénéfices, plombés notamment par l'augmentation des prix du carburant. Le bénéfice de la compagnie aérienne ressort à 538 millions d'euros au deuxième trimestre contre 820 millions d'euros il y a un an. C'est un recul de 34%, alors même que sur la période, Ryanair a transporté plus de passagers. Mais l'augmentation de la clientèle ne réussit pas à compenser la forte hausse des cours du pétrole et donc du prix du kérosène. Ryanair qui explique d'ailleurs faire appel à des avions moins consommateurs de carburant et pouvant accueillir encore plus de passagers pour compenser.
Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve dans une demi-heure. C'est l'heure du débat.
Good morning business, face à le Chypre.
Et face à le Chypre, il y a Raphaël Legendre ce matin. Bonjour messieurs, on parle de cette grève à EDF, à l'initiative de la CFE-CGC, pour mettre fin aux tarifs préférentiels dont bénéficient les salariés d'EDF depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça concerne 300 000 foyers. Faut-il mettre fin aux privilèges, Raphaël Legendre?
Bah oui, enfin il y a quand même des enjeux absolument majeurs qui attendent EDF dans les années et les décennies à venir. Je rappelle, la construction de 6 réacteurs, 6 EPR, prolonger tout son parc, électrifier le pays. Pour réussir le nucléaire du 21e siècle, il va falloir, on peut plus conserver le statut social de 1946. Je vous ai fait un petit best-of des chiffres du rapport de la Cour des comptes. C'est quand même assez spectaculaire. Ouais. Moi, je pensais qu'ils payaient que 10% du prix de l'électricité, nos amis du DEF, qu'on adore par ailleurs. Ils sont super efficaces. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une tempête ou un problème des fils arrachés, ils sont très très efficaces. Mais ils payent 2% du prix de l'électricité, nos amis d'EDF. 2% du tarif moyen réel depuis 1951. Ouais. Sur le gaz depuis 62, c'est quand même dingo. Cet avantage énergie coûte plus de 700 millions d'euros par an au groupe. Et tenez-vous bien, il y a des engagements futurs qui sont inscrits au bilan d'EDF. On en est à près de 4 milliards d'euros. Ces chiffres sont démentiels. Ça ne concerne pas que les salariés d'EDF, ça nous concerne tous, puisque le fisc sous-évalue cet avantage environ de moitié, et donc ces 230 millions d'euros de recettes fiscales et sociales perdues en 2024, nous dit la Cour des comptes. Au total, les avantages sociaux supportés par EDF SA approchent 1 milliard d'euros par an, parce que vous avez évidemment le tarif préférentiel des agents EDF, mais vous avez aussi des logements, vous avez les aides familiales, vous avez des activités sociales. Longtemps, le comité social d'EDF a servi de boîte noire pour financer aussi le parti communiste. Voilà, tout ça, les syndicats qui préparent la grève nous disent que ça fait partie de la rémunération. Juste pour terminer, la rémunération moyenne brute chez EDF, on approche les 70 000 euros par an. Elle est supérieure à la moyenne du marché. La rémunération nette médiane des cadres dépasse de plus de 20% celle des cadres de l'industrie. En 2023, ils ont été réévalués de 11%, etc., etc. Enfin, j'en ai des pages et des pages, là. Je pourrais continuer.
Laissez parler Emmanuel Lechypre. J'ai hâte de savoir ce qu'il va défendre.
Alors, sur, non, mais attendez. D'abord, il faut recentrer notre débat. Notre débat, c'était pas est-ce que les salariés d'EDF, globalement, sont des privilégiés, etc. C'était uniquement sur cet aspect d'être dispensé, finalement, quasiment, de payer la facture d'électricité, comme les salariés d'Air France profitent de voyages pas chers, comme les salariés de la SNCF profitent de billets avantageux. Oui. Après, oui, on sait que EDF, c'est pas une entreprise où on vit mal, et on sait ce que peut produire, effectivement, cette alliance à la française absolument efficace et redoutable entre les grands corps d'ingénieurs d'un côté et les grands syndicats de l'autre. Nonobstant tout ça, moi, ce qui me choque, c'est toujours cette idée qu'on va revenir sur une mesure qui, au départ, fait partie de votre contrat de travail. Donc, quand vous signez à la SNCF, quand vous signez à EDF, c'est comme quand vous êtes fonctionnaire, vous signez pour l'emploi à vie, vous avez des contreparties, après, en termes de rémunération. Alors après, moi, je veux bien que les sommes soient importantes, mais quand vous regardez, finalement, au final, ce que ça représente, alors on va trouver...
Bah, près de 4 milliards d'euros d'engagement sur le bilan pour les prochaines années, pardon, c'est pas une paille.
Oui, mais pour les prochaines années, mais Raphaël, ramener au niveau d'un salarié d'EDF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tarif avantageux de l'électricité, ça représente quoi? Ça représente un 13e mois. Alors ce 13e mois, on le trouve honteux pour les salariés de la SNCF ou pour les salariés d'EDF, et on le trouve génial quand il est distribué par LVMH pour gâter ses salariés. Non, moi je trouve que c'est pas un bon procès qu'on fait. On change pas les règles après coup comme ça.
Oui, mais c'est toutes choses égales par ailleurs qu'on change pas les règles.
Non, mais... D'accord.
Non, mais on peut les changer pour le futur. Alors, enfin, je veux dire.
Ah bah à ce moment-là, oui, on peut les changer.
On peut mettre la clause du grand-père. C'est ça.
Pour le futur. Enfin... Après, ça fait partie aujourd'hui de tous ces éléments que vous mobilisez pour recruter des gens. Qui a envie d'aller chez EDF aujourd'hui? Bon, bah voilà, vous attirez des compétences. Et puis encore une fois, toutes nos grandes entreprises ont des avantages spécifiques. Si on veut les renégocier, il faut le dire. Mais ça veut dire qu'il faut aussi bouger d'autres curseurs dans les éléments de rémunération, de qualité du travail, etc.
Oui, revient sur les 32 heures par semaine, 32 heures hebdomadaires
par
travail,
exemple,
peut-être.
Mais par exemple, encore une fois, la Cour des comptes ne dit pas qu'il faut supprimer tout ça. Donc, je trouve que c'est toujours des os à ronger un peu faciles, mis en avant par des comptables, et qu'on manque un peu de perspective sur tout ça.
Le préavis, en tout cas, dure jusqu'à décembre. Donc, on va avoir quelques mois de discussion. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat le plus tout de suite.
Morning Business, le plus.
On reste dans l'énergie. La plus grande centrale nucléaire d'Espagne pourrait bien cesser son activité. La fermeture, prévue pour 2028, pourrait toutefois être reportée. C'est ce que demandent les actionnaires du site. Le gouvernement doit trancher à l'automne. Le petit village d'Almaraz, qui vide l'activité de la centrale, retient son souffle. Alexandra Paget.
Ce restaurant, ouvert dans les années 80, en même temps que la centrale, accueille chaque jour plusieurs dizaines d'employés du site. Des personnels du secteur nucléaire, d'entreprises qui viennent ici pour effectuer des travaux supplémentaires tout au long de l'année. Almaraz vit au rythme de la centrale, sa fermeture est dans toutes les têtes. Fernando Sanchez Castilla y travaille, il préside l'association Oui à Almaraz, Oui à l'avenir, et est maire d'un village voisin.
C'est une véritable manne financière qui arrive dans la région, surtout pour cette zone très défavorisée. Ce serait un véritable désastre. 5% du PIB de la région proviennent de cette centrale nucléaire, ainsi que 4000 emplois directs et indirects.
En contrebas du village, les deux cheminées blanches des réacteurs attirent immédiatement l'œil. Almaraz assure 7% de la demande nationale en électricité. L'imposante installation est conçue pour continuer à fonctionner de nombreuses années, assure Patricia Rubio Oviedo, responsable du bureau technique d'exploitation de la centrale nucléaire.
Plus un mix énergétique est diversifié, plus il est robuste. C'est pourquoi les énergies renouvelables s'accordent parfaitement avec l'énergie nucléaire. La production des énergies renouvelables est variable, tandis que l'énergie nucléaire apporte de la stabilité. Il s'agit d'une production synchrone qui fonctionne de manière stable et continue sur 24 heures.
Pedro Sanchez et son gouvernement veulent faire passer d'environ 60% actuellement à 81% en 2030 l'électricité produite en Espagne grâce grâce aux renouvelables et sortir entièrement du nucléaire en 2035. Un engagement que le Premier ministre doit avoir le courage de tenir, estime Francisco del Pozo Campos, responsable de la campagne de Greenpeace Espagne contre les énergies fossiles.
No cierran los reactores.
Si les réacteurs ne sont pas fermés à temps, nous risquons de subir une perte d'environ 26 milliards d'euros en investissement privé dans les renouvelables. C'est très grave. D'une part, cela alourdit la facture des consommateurs et d'autre part, cela remet un peu en question la transition énergétique.
La Commission européenne vient pourtant d'appeler ses membres à éviter la mise à l'arrêt prématurée des capacités nucléaires existantes pour réduire le recours aux énergies fossiles. La décision finale du ministère de la Transition écologique espagnole est attendue avant fin octobre.
Good morning business. Le monde qui bouge.
On s'intéresse au président libanais Joseph Aoun Analiza qui va rencontrer Donald Trump à Washington aujourd'hui. Un but précis dans cette visite, s'assurer du soutien américain dans la lutte contre le Hezbollah et la reconstruction du pays. Est-ce que Donald Trump, lui, veut réellement débloquer la situation ?
Tout dépend d'une question. Est-ce que Donald Trump va accepter de faire pression sur les Israéliens qui sont ses alliés pour qu'ils se retirent progressivement du sud du Liban ? En fait, le nœud de la question est lié évidemment au désarmement du Hezbollah, parce que les Libanais considèrent qu'il sera très difficile de désarmer le Hezbollah tant que l'armée israélienne restera présente sur une partie du territoire. Et pour l'instant, les Israéliens, eux, refusent de se retirer tant que le Hezbollah n'est pas désarmé. Donc vous voyez que la situation est bloquée. C'est pour ça que Joseph Aoun mise tout sur cette visite, visite à laquelle il va arriver avec un plan très précis, plan de désarmement du Hezbollah avec un calendrier d'application pour montrer que lui fait ce qu'il peut. Le but justement, c'est de sortir de ce blocage, de débloquer la situation en faisant la pression nécessaire sur Israël. Je cite Joseph Aoun, ses mots avant le début de son voyage, et Donald Trump est peut-être le seul à avoir le poids politique pour le faire.
Oui, parce que le Liban a besoin des États-Unis pour reconstruire le pays.
Oui, ça sera un chantier immense, la reconstruction, parce que la guerre a eu un coût économique immense. Le gouvernement estime que les derniers combats ont causé entre 3 et 4 milliards de dollars de dégâts directs seulement, qui s'ajoutent aux plus de 8 milliards de dollars du précédent conflit. Donc voici pour l'ampleur de la destruction. Vous imaginez bien l'ampleur de la reconstruction. La Banque mondiale estimait qu'il faudrait 11 milliards de dollars. Cette estimation date du 7 mars 2026, donc c'était au tout début de la guerre. Vous imaginez bien que ce chiffre a gonflé. Et surtout, cette reconstruction, il faut savoir qui peut la financer. En 2018, on avait promis au Liban 11 milliards de dollars de prêts et de dons pour soutenir l'économie libanaise, pour relancer la croissance du pays. Cet argent n'a jamais été versé. C'est pour ça que ce que demande Joseph Aoun aujourd'hui n'est pas un chèque, n'est pas une promesse. Ce qu'il espère, c'est que le soutien de Donald Trump va rassurer les investisseurs et les entreprises privées qui, elles, pourront ensuite investir sur place et participer à la reconstruction.
Mais a priori, le Hezbollah n'est pas prêt à céder, Analiza.
Absolument pas. Au contraire, le Hezbollah refuse toujours de rendre les armes et rejette les négociations directes entre Beyrouth et Tel Aviv sur le terrain. Donc, ça reste compliqué. Et en même temps, du côté de Washington, on commence à saluer les efforts diplomatiques de Beyrouth. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui a rencontré Joseph Aoun il y a quelques heures en amont de la visite avec Donald Trump pour préparer justement cette rencontre, a félicité le gouvernement libanais pour son courage, je le cite, dans les efforts visés à désarmer le Hezbollah et à progresser vers la paix. Donc aujourd'hui, toute la stratégie de Joseph Aoun repose sur un pari, c'est celui de renforcer progressivement l'État grâce au soutien américain pour essayer de convaincre les Libanais aussi que l'armée peut remplacer le Hezbollah. Et donc, c'est précisément ce que Donald Trump devra décider aujourd'hui, jusqu'où lui et les États-Unis sont prêts à accompagner ce pari.
Merci Analiza Capellini. Le monde qui bouge, à retrouver en replay sur notre appli, sur notre site.
Good morning business. Le journal.
7h31, les titres, Léo.
Les Houthis promettent un blocus à l'Arabie Saoudite dans le détroit de Bab el-Mandeb. Bon, on verra quels sont les risques pour le pétrole dès le début de ce journal. Les remplissages de stocks de gaz, c'est bien engagé en Europe, mais il se fait au prix fort. Et puis une amende record de la Commission européenne contre AliExpress. C'est donc la 10e nuit consécutive de frappes américaines en Iran qui vient de s'achever. Au même moment, c'est peut-être un nouveau front qui est en train de s'ouvrir en mer Rouge. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé hier soir un blocus maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb en représailles précisément contre l'Arabie Saoudite. Alors, pas plus de détails à ce stade sur sa mise en œuvre, ni d'effets sur les cours du pétrole, mais Nathan Cocampo, voilà un risque de plus pour le commerce pétrolier.
Oui, Léo, la mer Rouge, le détroit de Babel Mandeb, c'est l'option B pour exporter le pétrole d'Arabie Saoudite. Depuis le blocage d'Hormuz, des millions de barils transitent par oléoduc d'est en ouest vers le port de Yanbu avant de partir en bateau vers les différents clients du royaume. Plus de 4 millions de barils par jour ont transité par ce passage le mois dernier. Pour le moment donc, pas de blocage, mais la situation est surveillée de près et une coalition menée par l'Arabie Saoudite est sur le pont pour défendre les navires au large. Toutes les menaces houthies contre les navires en transit seront traitées rapidement et fermement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la coalition sur X.
La mer Rouge qui était évitée par les transporteurs commerciaux ces dernières années, Nathan.
Oui Sandra, avec la multiplication des attaques des rebelles, les navires se sont peu à peu retirés de cette zone. Il y a 4 ans, 10% du commerce maritime mondial passait par le détroit de Bab el-Mandeb qui relie le canal de Suez et donc l'Europe à l'Asie. On est tombé à 3% aujourd'hui. Les navires préfèrent contourner cette zone en passant par le sud de l'Afrique, un trajet plus long de 2 semaines, plus coûteux donc, mais plus sûr. Mais pour le pétrole, pas le choix. L'Arabie Saoudite a 2 options, Hormuz ou Bab el-Mandeb. Une crise simultanée dans ces 2 zones pourrait menacer l'acheminement de millions de barils et provoquer donc un choc bien plus important. On n'y est pas encore et l'annonce de ce blocus n'a pour le moment pas d'incidence particulière sur le prix du Brent, autour des 88$.
88$ pour le pétrole, ça reste donc loin des plus hauts connus cette année, au plus fort de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, sur les cours du gaz, on a quasiment retrouvé les niveaux records sur le marché européen. Hier, les craintes d'approvisionnement semblent bien relancées alors que le continent remplit ses stocks, Mathieu Pechberti.
La guerre en Iran repart au plus mauvais moment pour les Européens. Les cours du gaz sont repartis à la hausse ces derniers jours et hier, l'indice européen TTF a franchi le seuil symbolique des 60€ le mégawattheure, 1€ en dessous du record du mois de mars. Les marchés craignent pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Les stocks sont en pleine saison de remplissage alors qu'ils étaient au plus bas à 20% après un hiver rigoureux. Ils viennent tout juste de passer la barre de 50% en moyenne dans l'Union européenne, sauf pour l'Allemagne qui reste en retard alors qu'elle est le plus gros consommateur de gaz en Europe. Le remplissage est confronté à une demande de gaz plus élevée cet été. La canicule couplée à l'absence de vent a conduit à relancer de nombreuses centrales à gaz en Europe pour assurer la climatisation. Mais les gaziers se veulent rassurants malgré la fermeture du détroit d'Hormuz. Le français Engie estimait il y a quelques semaines que remplir les réserves à 70% suffirait pour passer l'hiver prochain.
Et chez EDF, ça sent la grève, Léo.
Oui, le préavis démarre ce matin et il court jusqu'au 31 décembre. Mais c'est la date pour l'instant du 15 septembre qui a été choisie par l'intersyndicale pour faire grève. Se mobiliser là en fait contre une possible réforme du tarif préférentiel des salariés. Un avantage qui leur permet d'économiser plus de 90% sur leurs factures et qui coûte très cher à l'État, Valentina Dbi.
À l'origine de ce projet de réforme, une mise en demeure de la Cour des comptes qui demande au gouvernement de se mettre en conformité entre ce tarif et la valeur réelle de l'énergie. Aujourd'hui, 300 000 foyers profitent de ce régime préférentiel, qu'ils soient salariés actifs ou retraités des entreprises électriques et gazières. La Cour des comptes dénonce un double effet négatif. Dans un rapport publié la semaine dernière, elle pointe un coût démesuré de plus de 700 millions d'euros pour l'année 2024. L'institution relève aussi une incitation à surconsommer. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, en 2015, la consommation moyenne d'un bénéficiaire était de 13 MWh d'électricité par an, contre 5 pour un ménage moyen. Si la grève se concrétise, ce serait une mauvaise nouvelle pour la production d'électricité en période de canicule, alors que la production de plusieurs réacteurs nucléaires a été abaissée pour des raisons environnementales.
7h36 et la Commission européenne dégaine encore une très grosse amende en vertu du DSA, la plus élevée même après les 120 millions d'euros contre le réseau social X et les 200 contre Temu. C'est là une autre plateforme chinoise qui est sanctionnée, Noah Domain.
Une amende record de 550 millions d'euros contre AliExpress. Il s'agit là de la plus lourde sanction prononcée par Bruxelles depuis l'entrée en vigueur du Digital Service Act, le règlement européen sur les services numériques adopté en 2022. La Commission européenne s'appuie sur une enquête ouverte en mars 2024 où elle estime que la filiale du géant chinois Alibaba disposait d'un système défaillant pour détecter les produits illégaux mis en vente sur sa plateforme. Résultat, des jouets dangereux, des cosmétiques à risque ou encore des vêtements contrefaits sont restés en vente pendant de longues périodes. Les vendeurs mal intentionnés pouvaient également contourner les systèmes de vérification mis en place par la plateforme. AliExpress juge cette demande disproportionnée, sans préciser à ce stade si l'entreprise compte faire appel. Désormais, la plateforme dispose de 3 mois pour présenter des mesures de mise en conformité, sous peine de nouvelles sanctions financières.
Le premier jour du salon de Farnborough hier, et le loueur SMBC Aviation Capital n'a pas fait de jaloux. Il commande 100 appareils à Boeing, des 737 Max, et 100 autres à Airbus, des A320neo et des A321neo. Le constructeur européen qui annonce aussi un contrat pour 6 modèles A350 avec la compagnie saoudienne Riyad Air.
Et puis la Coupe du Monde, c'est fini, mais certains ont déjà le regard tourné vers la prochaine, dans 4 ans.
Oui, à commencer par le Maroc qui co-organise l'édition de 2030 et qui d'ici là veut doper ses structures hôtelières pour tirer profit au mieux de cet événement, Justine Bassogne.
Quart de finaliste cette année, demi-finaliste en 2022, le Maroc compte bien tirer parti de la Coupe du Monde qu'il organise avec l'Espagne et le Portugal en 2030. La ministre du Tourisme n'a d'ailleurs pas perdu de temps dès hier au lendemain de la finale. Le pays veut créer 60 000 nouveaux lits d'ici à 4 ans, a-t-elle expliqué, soit augmenter d'un cinquième sa capacité hôtelière actuelle. De 2022 à 2026, 45 000 lits ont déjà été ajoutés. Le Maroc voit grand. Il compte attirer 26 millions de visiteurs en 2030, soit 6 millions de plus que l'année passée. Pour cela, le Royaume a massivement investi près de 18 milliards d'euros en infrastructures de transport. Il veut aussi diversifier son offre, développer le tourisme dans sa capitale de Rabat, qui accueillera plusieurs matchs. Le Maroc mise aussi beaucoup sur son futur stade Hassan II, enceinte ultra-moderne de 115 000 places en construction dans la banlieue de Casablanca. Un projet de plus de 10 milliards d'euros qui constitue un argument de poids pour accueillir la finale. La FIFA n'a pas encore tranché et le Maroc est en compétition avec l'Espagne et le Stade Bernabéu du Real Madrid.
7h38, les marchés. Nicolas, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance a été bloqué par un juge.
Oui, une juge fédérale d'Auckland a annoncé cette nuit la suspension momentanée du rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance. Une décision prise afin d'examiner l'affaire alors que les procureurs de 12 États américains s'opposent à cette fusion au motif que la nouvelle entité serait trop grande et présenterait un risque pour la libre concurrence dans le secteur. Des arguments qui ont convaincu la juge de creuser et qui fait subir un nouveau revers à Paramount Skydance qui, lors de la bataille avec Netflix pour le rachat de Warner Bros. Discovery, présentait son offre comme plus sûre d'être autorisée. Paramount, qui s'est d'ailleurs justement engagé sur le sujet lors des négociations, a versé 650 millions de dollars par trimestre aux actionnaires de Warner Bros. Discovery à compter du 1er octobre, tant que l'opération ne serait pas finalisée. L'annonce n'a donc pas manqué de faire réagir les marchés. Paramount a perdu 2%, Warner Bros. Discovery a perdu plus de 3% et Netflix également a perdu 2%.
La bourse de Londres veut lancer du trading 24 heures sur 24 à partir de l'année prochaine.
Oui, le London Stock Exchange annonce qu'il va lancer une plateforme de négociation nocturne l'année prochaine à partir du premier semestre 2027. Une nouvelle bourse qui fonctionnera séparément du marché principal et qui donnera accès dans un premier temps, non pas à des actions, mais plutôt à des produits indexés sur des actions anglaises ou américaines. Une annonce qui témoigne de la volonté des places de marché traditionnelles de s'adapter aux attentes des plus jeunes investisseurs habitués à la cotation en continu, notamment via les plateformes en crypto-monnaie accessibles 24 heures sur 24 qui se sont ensuite tournées vers la négociation d'actions. Mais cette décision du London Stock Exchange pourrait aussi être un moyen de redorer le blason de la Bourse de Londres, alors que depuis le Brexit, celle-ci perd de son éclat et fait notamment face à une pénurie d'introductions en bourse. En 2026, elle n'a enregistré que 2 IPO pour lever 13 millions de livres.
Merci Nicolas Pagnès, l'édito de Raphaël Legendre.
Good morning business. L'édito de Legendre.
Et vous revenez, Raphaël, sur ce que dit la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, qui vient de présenter la facture du soutien aux énergies renouvelables pour 2027. Ça va être très cher, Raphaël.
Oui, elle s'annonce très lourde, cette facture, Sandra, effectivement. 14,2 milliards d'euros. Oui, pour les charges de services publics de l'énergie. Alors attention, dans ces 14 milliards, il n'y a pas que l'éolien et le solaire, ça comprend aussi les territoires insulaires, le biométhane, la cogénération au gaz ou encore différents mécanismes de solidarité. Mais même en isolant uniquement l'éolien et le solaire, la tendance est absolument spectaculaire. Le soutien aux renouvelables électriques et au biométhane, qu'on peut ajouter aussi, devrait approcher les 10 milliards d'euros en 2027. 9,8 milliards d'euros. précisément, en 2024, c'était, tenez-vous bien, moins de 4 milliards. En 3 ans, la facture aura été multipliée par 2,5. Alors pourquoi ? Bah, c'est très simple, parce que l'État garantit aux producteurs un prix fixé par contrat. Quand le prix de marché est inférieur, bah c'est le contribuable qui paye la différence. Et comme les capacités installées augmentent, et bah les volumes subventionnés augmentent eux aussi. On a inventé une mécanique budgétaire assez redoutable. Plus on installe, bah plus on paye.
Les contrats ont quand même rapporté de l'argent à l'État, Raphaël.
Oui, alors c'est vrai, Sandra. Lorsque les prix de l'électricité ont explosé en 2022 et 2023, les producteurs ont reversé environ 5,5 milliards à l'État. C'est une somme. Le contrat pour différence, ça s'appelle comme ça, quand le prix de marché est inférieur, on subventionne. Quand il est supérieur, les producteurs reversent à l'État. Donc ce contrat pour différence fonctionne un peu comme une assurance à double sens. À double sens, le principe n'est donc pas absurde et le soutien a été efficace. La production de renouvelables française est passée de moins de 100 TWh en 2016 à près de 150 en 2024. Donc ça a bien fonctionné. Le biométhane a décollé, le solaire a atteint ses objectifs. Et le problème, c'est pas d'avoir soutenu ces filières. Le problème, c'est de continuer à les soutenir, bah, comme si elles étaient encore balbutiantes. Parce qu'en réalité, l'éolien et le solaire sont devenus aujourd'hui des industries matures. Les appels d'offres attirent les investisseurs professionnels. Le photovoltaïque au sol, maintenant, s'est échangé autour de 75 € le mégawatt-heure. L'éolien terrestre, autour de 87 €. Ça veut dire qu'ils sont plus compétitifs que le futur nucléaire des EPR qu'on va installer, qui sera entre 90 € et 100 € le mégawatt-heure. Donc on n'est plus dans l'artisanat énergétique, on est dans un marché industriel mature, il faut le traiter comme tel.
Et ça veut dire qu'il faut supprimer les aides ?
Alors peut-être pas toutes les aides, effectivement, mais il faut arrêter de sortir le chèque en blanc à chaque fois. Il faut arrêter de subventionner systématiquement la production lorsque les prix deviennent négatifs. Et puis surtout, il faut solder progressivement les vieux contrats. C'est eux qui coûtent une fortune, ceux qui ont été signés avant 2010, qui coûtent encore près de 2 milliards par an avec des tarifs décidés à une époque où les panneaux étaient rares et chers. Bref, globalement, il faut entrer aujourd'hui dans une logique de marché et arrêter de rémunérer aveuglément chaque kilowattheure supplémentaire.
Merci beaucoup Raphaël Legendre. Dans un instant, vous allez le voir, il travaille sur de nombreux sujets pour l'année qui vient. Clément Beaune, le commissaire à la stratégie et au plan, est mon invité dans le grand entretien. À tout de suite.
Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, c'est avec Clément Beaune, commissaire à la stratégie et au plan. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans la matinale de l'économie. Vous rendez finalement beaucoup de rapports ces derniers jours sur la situation de notre pays. On sort d'une période de canicule, je vais commencer par ça. Il faut que la France s'adapte. Vous voulez qu'on apprenne de ces 3 épisodes de canicule cet été pour finalement adapter la vie au travail. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la situation s'améliore dans les mois qui viennent?
Oui, il y a effectivement 3 piliers quand on regarde la question climatique. Il y a évidemment en priorité continuer à lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas abandonner cette lutte parce que plus on limite le réchauffement sur l'eau, sur l'ensemble des ressources, sur les vagues de chaleur qu'on connaît, mieux c'est évidemment pour nos vies quotidiennes. Ensuite, il faut s'adapter, c'est l'autre pilier. Et dans l'adaptation, on parle souvent de sujets qui sont très importants, des investissements massifs pour rénover par exemple nos écoles. Et on parle un peu moins d'un sujet dont on a voulu se saisir, qui est l'adaptation quelque sorte de la vie quotidienne, de nos organisations collectives, de nos modes de vie. Et on fait une proposition dans ce domaine, qui n'exclut pas les autres, qui est de dire sur nos services publics, sur la vie professionnelle, l'organisation des conditions de travail, sur des éléments très concrets, l'accès à la baignade, l'accès au vert, aux espaces verts dans nos villes, on peut faire mieux et on peut s'inspirer notamment de pays qui affrontent la chaleur depuis plus longtemps, je pense à l'Espagne par exemple, et donc on fait des propositions là-dessus. J'en prends une par exemple, se dire que après les vagues de chaleur qu'on connaît cet été, peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. En tout cas, on a déjà beaucoup souffert. Qu'on ne perde pas cette prise de conscience et que, par exemple, à l'automne, on lance branche professionnelle par branche professionnelle des négociations sereinement pour que avant le prochain été, avant les prochaines vagues de chaleur, on sache quoi faire quand vous avez des ouvriers sur un chantier ou des travailleurs agricoles ou des personnes dans un bureau climatisé, c'est évidemment pas les mêmes mesures. Mais partout, il faut qu'on adapte l'organisation du travail, comme le font les Espagnols, comme le font des pays chauds, et on est devenu un pays chaud, l'été notamment.
Il y a l'organisation, donc ça, effectivement, il faut la repenser. Et puis, il y a les investissements, évidemment, dans ce domaine. Monique Barbu a annoncé ce week-end à la Tribune du Dimanche que le budget de l'écologie serait fortement renforcé. Le fonds vert sera porté à 1 milliard d'euros. C'est ce que vous vouliez, hein, ce renforcement. Mais on est quand même aussi dans un moment où la dette explose, où ces investissements posent question à chaque fois, alors que c'est absolument nécessaire. Comment on règle cette équation qui se pose tout le temps, finalement?
Vous avez raison, il faut choisir des priorités. La priorité écologique, je suis heureux qu'elle soit tout en haut de l'agenda et du budget qui vient, oui. Parce qu'en réalité, c'est aussi un investissement qui nous évite des coûts. Parce qu'on voit bien que plus on arrive à limiter l'impact du changement climatique, même s'il est là, plus on arrive à s'adapter tôt, moins on aura des dépenses de réparation, en quelque sorte, sanitaires, d'organisation, d'investissement un peu dans l'urgence. On voit bien qu'on doit acheter des climatiseurs ou d'autres. Donc, c'est aussi un investissement qui nous fait économiser de l'argent. Ça a été chiffré par un rapport, d'ailleurs, à l'époque de France Stratégie, l'institution que je dirige aujourd'hui. C'est le rapport qui fait référence de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, qui disaient il y a trois ans, qu'il fallait à peu près un point de PIB par an d'investissement public supplémentaire pour lutter contre le changement climatique et porter les coûts d'adaptation. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que ça n'empêche pas les coûts, mais il y a des mesures qui sont assez peu coûteuses. Quand on adapte les horaires de nos services publics, c'est améliorer le confort d'été, le confort face aux vagues de chaleur dans nos vies quotidiennes. Et ça, c'est des mesures qui sont de l'organisation, mais qui ne sont pas des investissements extrêmement coûteux. Quand vous faites, par exemple, des plans pour la baignade, c'est pas forcément des adaptations, des aménagements dans nos cours d'eau partout en France qui sont extrêmement coûteux et qui peuvent donner une respiration à de nombreux Français, de nombreux jeunes en particulier, qui ont énormément souffert dans les grandes villes, pas seulement à Paris. On a beaucoup parlé du canal Saint-Martin, mais il n'y a pas que Paris, pour affronter ces vagues de chaleur aussi. Donc, il faut qu'on combine tout ça. Mais bien sûr, c'est des investissements, on le dit dans une note récente sur les finances publiques, qui vont nécessiter des choix budgétaires très importants par ailleurs, parce qu'il y a la dette écologique, il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas oublier la dette tout court, qui est galopante aujourd'hui et qu'on doit maîtriser par des choix budgétaires difficiles.
Vous rendez aussi, vous avez plein de sujets dans les rapports que vous rendez, vous avez préconisé dans un rapport de la semaine dernière une nouvelle méthode pour évaluer le coût pour l'État des aides aux entreprises. Alors évidemment, c'est un sujet explosif, on va certainement y revenir énormément en cette année présidentielle. Vous avez classé les aides finalement en deux chapitres, c'était pour rendre un peu le processus un peu plus transparent.
Exactement, vous le savez, ici, les aides aux entreprises, c'est une passion française. Donc il y a eu une douzaine de rapports en 20 ans, quasiment tous les 18 mois. Bon, on pourrait continuer comme ça. Donc, on s'est dit, on va faire une autre méthode. On ne va pas chercher le chiffre magique, parce qu'il y a plein de façons de compter et toutes sont assez légitimes. Et donc, on ne va pas ajouter un chiffre au chiffre, ça ne sert à rien. On va dire, ce qui sert, en revanche, c'est d'avoir la transparence, en effet, et un suivi régulier sur un même périmètre. Donc, ce qu'on dit, c'est prenons une fourchette basse, une fourchette haute, comme ça, tout le monde trouvera son compte d'une certaine façon, stabilisons ces périmètres. Donc il y en a un qui est assez petit, par exemple, autour de 80 milliards d'euros, un qui est plus grand, autour de 180 milliards d'euros, qui inclut les allègements généraux de cotisation, qui est en général le grand point de débat entre les différentes estimations. Et ces deux périmètres, chaque année dans le budget, ça c'est inédit, et dès cette année, ça va commencer par les documents du gouvernement, on les suivra, et on pourra voir comment ça évolue. En gros, passer d'un débat un peu vain sur combien ça coûte, un débat plus utile sur comment ça évolue dans le temps et comment on évalue ces aides aux entreprises. Parce que le problème, c'est pas d'avoir 200, 300 ou 100 milliards d'aides aux entreprises, c'est de savoir si c'est efficace, dispositif par dispositif. Et donc, nous, on propose que toute la concentration, l'énergie qu'on met dans ce débat, on la mette sur ce qui est plus utile, l'évaluation. Et nous, on est prêt à le faire avec d'autres organismes publics. Il y a plein de gens qui sont très compétents, comme la Cour des comptes, pour le faire. Faisons-le. Évaluons les dispositifs, et puis s'ils sont efficaces, on les garde. S'ils sont pas efficaces, on les change.
Autre rapport qui a lien avec l'entreprise et avec la nécessité de travailler dans notre pays, travailler plus, travailler aussi plus longtemps. Vous allez présenter un rapport sur les seniors au travail demain. Comment favoriser l'emploi jusqu'à la retraite? Alors, quelles mesures on peut mettre en place pour contraindre les entreprises à garder ces profils plus longtemps? Parce que on sait que ce sont des profils expérimentés, mais des profils aussi plus chers.
Oui, alors on rend ce travail demain, effectivement, sur l'emploi des seniors, parce qu'il y a une question qui est très importante. On parle beaucoup de l'âge de la retraite. C'est très important. Si vous voulez qu'on travaille collectivement plus longtemps, il faut effectivement qu'on augmente, c'est en cours, l'âge légal et effectif de départ. Il y aura sans doute d'autres réformes.
C'est pas en vogue, cet esprit-là.
Ça, je laisse ce sujet pour l'instant de côté. Ce sera un sujet de la présidentielle, notamment, parce que c'est un choix de société et un choix de financement de notre modèle social. Mais justement, si l'âge augmente, et de toute façon, il est en train d'augmenter avec les réformes précédentes, la question qui est juste derrière, qu'on traite un peu moins, c'est comment on s'assure que, en vrai, les seniors, c'est-à-dire en fait les travailleurs de plus de 55 ans, restent dans l'emploi. Et il y a des pays qui ont un meilleur taux d'emploi que le nôtre, même si on a fait des progrès, je pense aux pays scandinaves notamment. Et ce qu'on regarde, c'est que par exemple, des questions comme la formation sont essentielles. Il ne s'agit pas seulement de fixer un âge, il faut aussi qu'il y ait toute une série de conditions derrière pour que les entreprises et les travailleurs salariés soient dans l'emploi pour de vrai. Parce que si vous avez un âge de retraite à 64 ou plus, et que les gens sont au chômage à partir de 55 ans, on n'a pas ni amélioré le financement du modèle social, ni amélioré la situation individuelle de chacun. Donc la question de formation, les questions de cumul emploi-retraite, les questions de cumul d'activité, de retraite progressive, toutes ces questions-là qui sont un peu moins traitées, on les aborde là en disant qu'il faut qu'on s'en saisisse et que les partenaires sociaux s'en saisissent notamment.
Je fais un pas de côté, mais c'est vrai que travailler plus en ce moment, c'est pas forcément ce qu'on entend dans la volonté de la population en réalité. Ne serait-ce que supprimer 2 jours fériés, on en a parlé il y a quelques mois, ça n'a pas du tout fait l'unanimité. Les gens étaient plutôt contre majoritairement. Comment on fait pour convaincre que finalement c'est la survie du système qui est derrière ça?
Bien sûr, il y aura des propositions politiques, je n'en doute pas, sur la question de la retraite. Il y a 2 réalités. Je vous donne juste ces chiffres-là. Aujourd'hui, même avec la réforme de 2023, si on compte qu'elle n'est que suspendue et qu'elle s'appliquera, on sera en France 2 à 3 ans, en dessous de la moyenne européenne pour l'âge de départ. Décalé par rapport à tous les grands pays européens. Bon. Et puis on a un choc démographique. En France, on pensait longtemps qu'on était un peu à l'abri, qu'on avait une bonne natalité, comme on disait. C'est plus vrai. On a eu pour la première fois en 2025 plus de décès que de naissances en France. Je dis simplement que si on veut financer le modèle social, je crois qu'on y est tous attachés, avec moins d'actifs, parce que avec la baisse de la population, c'est ça qui va se passer assez rapidement dans les 10 ans qui viennent. Mmh. Et un système de retraite qui est déjà pas totalement financé, il va falloir travailler plus d'une façon ou d'une autre et ouvrir aussi d'autres débats, mais qui sont complémentaires et pas alternatifs. La question de la productivité, l'IA, la robotique, toutes ces questions qui sont très importantes. Et puis la question de l'immigration économique, qui sera aussi un des débats difficiles, parfois un peu tabou, mais on ne peut pas être le seul pays d'Europe, par rapport à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne, qui ferme tous ces débats à la fois, qui dit « je ne veux plus parler de la retraite, je ne veux pas parler d'immigration économique, et la productivité, c'est trop compliqué, c'est un truc libéral, je ne discute pas ». Il faut qu'on ouvre ces débats sereinement, et j'espère, on va y contribuer, avec des chiffres, des comparaisons, que ce sera un débat de société pour l'élection présidentielle.
Partir sur des chiffres clairs. Merci beaucoup, Clément Beaune, d'être venu au commissaire à la stratégie et au plan dans la matinale de l'économie. Dans un instant, on va revenir sur les annonces d'Andy Burnham à Downing Street, son choix de gouvernement qui va peut-être, espère-t-il en tout cas, rassurer les marchés. On y revient dans un instant. À tout de suite.
BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good morning business, Sandra Gandoin.
Il est presque 8h, bienvenue dans la matinale de l'économie. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 9h sur BFM Business. Dans un contexte d'inquiétude de la City, les premières annonces d'Andy Burnham à Downing Street. Il a choisi John Healey comme ministre des Finances, ce qui devrait rassurer les marchés. C'est le but en tout cas. Ed Miliband atterrit aux affaires étrangères. On va faire le point sur ce nouveau gouvernement britannique avec notre correspondant à Londres dans un instant. Et puis, réintroduction des pesticides, simplification des normes, construction d'ouvrages de stockage d'eau. La loi d'urgence agricole a convaincu l'Assemblée. C'est une victoire pour les agriculteurs. Le Sénat doit valider aujourd'hui. On va voir ça dans le détail avec Nathan Cocampo dans un instant. Les autres titres, Léo Dumas.
Donald Trump relance la guerre commerciale avec le Canada. 3 députés veulent améliorer le contrôle des investissements étrangers. Et puis la France est largement en avance dans le déploiement des bornes de recharge électrique.
Dans la prochaine heure, ça fait plaisir, ce genre d'annonce. Encore une start-up rentable sur le plateau de Good Morning Business. Ça avance dans la French Tech après WeThings. C'est Payfit qui viendra nous parler de ses plans sur ce plateau. Ce sera à 8h15. Et puis, le jeu vidéo physique tente à disparaître. Est-ce que cela marque la fin de Micromania? L'entreprise a été rachetée par un consortium d'investisseurs franco-canadiens qui compte bien relancer la marque. On va en parler avec Philippe Renaudin dans Parole de patron. Ce sera à 8h20. La matinale de l'économie, ça continue. Soyez les bienvenus.
Good morning business, le journal.
Andy Burnham a donc pris les rênes du Royaume-Uni, Léo.
Oui, pour engager les changements les plus profonds de ces 40 dernières années, c'est ce qu'a dit en tout cas le nouveau Premier ministre hier devant le 10 Downing Street pour sa première allocution avant d'annoncer son gouvernement. Tout ça sous l'œil très nerveux des marchés, comme nous le dit sur place à Londres Baptiste Muckensturm pour BFM Business.
Andy Burnham a reçu un accueil glacial de la City. Hier, les rendements des obligations d'État britanniques ont grimpé, surpassant les marchés européens, ce qui signifie que les investisseurs redoutent un dérapage des dépenses publiques. Et si la livre sterling s'est maintenue, eh bien le message des marchés est clair. La crédibilité budgétaire est entre les mains d'Andy Burnham et la moindre maladresse pourrait provoquer un séisme à la Liz Truss comme en 2022. Alors pour rassurer les investisseurs, le nouveau Premier ministre a créé la surprise avec un remaniement aux airs de purge pour les fidèles de Keir Starmer. Exit les figures du centre, place à l'expérience. Le choix stratégique de l'ex-ministre de la Défense, John Healey, au poste de chancelier de l'échiquier, est un signal fort. Ce vétéran du Trésor, respecté par le monde des affaires, devra rassurer les marchés tout en finançant un budget de la Défense troué de plusieurs milliards de livres. Shabana Mahmoud reste à l'intérieur après des succès sur la baisse de l'immigration clandestine, tandis que Ed Miliband prend la tête de la diplomatie britannique. Il relancera l'aide extérieure interrompue par Starmer. Les projets de nationalisation et de logements sociaux massifs n'ont donc pas été encore détaillés. Résultat, le marché obligataire reste, lui, aux aguets.
Baptiste Muckensturm pour BFM Business à Londres, où le nouveau gouvernement annonce à l'instant ce matin qu'il supprime la TVA sur l'électricité des ménages pour l'hiver qui vient. Andy Burnham, lui, a comme de coutume passé quelques appels à plusieurs dirigeants étrangers par ailleurs, et il a notamment assuré à Donald Trump son engagement pour la défense et la sécurité du Royaume-Uni, mais aussi de ses alliés, en échange salué dans la foulée par le président américain sur son réseau social. Donald Trump qui, lui, annonce aussi 50% de droits de douane supplémentaires contre le Canada. Le décret est signé et il cible les vins, le ciment et également les crosses de hockey exportées par le Canada. Une violation directe de l'accord de libre-échange nord-américain, dénonce Mark Carney, le premier ministre canadien, qui se dit en droit de prendre des mesures équivalentes, mais aussi prêt à intensifier les discussions pour régler ce différend.
La politique aussi en France et cette dernière grosse journée au Parlement avant les vacances.
Oui, l'adoption définitive de 6 texte est au menu aujourd'hui, notamment celui sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, après l'accord trouvé hier entre députés et sénateurs. Et puis, dernier vote à suivre aussi au Sénat ce soir pour la loi d'urgence agricole, finalement validée en pleine nuit à l'Assemblée nationale. Après des heures de débat sous haute tension, Nathan Cocampo, le texte va donc bien réintroduire 2 pesticides interdits. C'est ça qui a provoqué la colère de la gauche et qui déchire le gouvernement.
Oui, Léo, l'acétamipride et le flupyradifurone, après le vote définitif du Sénat aujourd'hui, ils pourront être réutilisés sur le territoire de manière dérogatoire et sous conditions strictes. C'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui donnera son feu vert à certaines filières en difficulté selon la situation. 2 insecticides interdits en France donc, mais autorisés en Europe. De quoi provoquer de fortes tensions cette nuit lors des débats. Quasiment l'ensemble de la gauche a voté contre cette loi d'urgence agricole, mais pas seulement. Au sein du camp présidentiel, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, s'est elle aussi opposée à cette réintroduction. Sa démission est sur la table selon son entourage. Cette disposition de la loi d'urgence agricole rappelle la loi Duplomb, votée l'an dernier, mais après une vague de mobilisation et la saisie du Conseil constitutionnel, le retour de l'acétamipride avait finalement été censuré pour des motifs constitutionnels.
La FNSEA, elle salue un tournant majeur, Nathan.
Oui, Sandra, le premier syndicat agricole se réjouit d'une prise de conscience de la situation critique que traverse aujourd'hui la ferme France. Dans un contexte aussi, on le sait, de sécheresse exceptionnelle que connaît le territoire. Outre la réintroduction dérogatoire de ces 2 pesticides, vivement demandés par la filière betterave notamment, cette loi d'urgence agricole simplifie les normes, allège certaines procédures, accélère des autorisations de projets, renforce donc la souveraineté alimentaire. Elle permet entre autres de faciliter la construction d'ouvrages de stockage d'eau pour lutter contre la sécheresse et vise à améliorer la rémunération des agriculteurs en leur donnant plus de poids dans les relations commerciales avec les industriels. Le texte sera donc examiné une dernière fois au Sénat aujourd'hui en vue de son adoption définitive.
Merci beaucoup Nathan. Cette question à présent, nos actifs stratégiques sont-ils suffisamment protégés et comment faire mieux, Léo ?
Alors les députés, plusieurs députés ont planché sur ces questions pendant plusieurs semaines et voilà leur conclusion ce matin. La France n'a pas à rougir de ces dispositifs, mais il y a quand même d'importantes marges de progression, Caroline Morisseau.
Les députés pointent les lacunes de la France. On se focalise sur le contrôle des investissements étrangers, le dispositif qui permet à Bercy d'empêcher la cession d'un actif stratégique. Mais il faut aussi agir en amont, mettre en place une vraie doctrine nationale assumée, cartographier les enjeux, secteurs à protéger, technologies à risque. Le rapport préconise aussi de renforcer les pouvoirs de l'État afin qu'il puisse empêcher la cession d'un brevet ou une délocalisation lorsque de l'argent public a été investi dans la recherche et développement. Autre recommandation, créer une nouvelle infraction pénale spécifique pour mieux lutter contre l'espionnage industriel. Enfin, la France doit investir davantage dans ses secteurs clés. Pour cela, les députés plaident pour une réforme systémique des retraites, avec à la clé une dose de capitalisation obligatoire afin de créer des fonds de pension français. Une mesure politiquement sensible et impossible à mettre en place à court terme. En attendant, les députés suggèrent donc de réinvestir les dividendes issus des participations de l'État dans les secteurs stratégiques.
Et puis la France a de l'avance sur l'installation des bornes de recharge électrique. Ça tombe bien au moment où le segment est en train de décoller. Le calendrier est plus que respecté, comme un peu partout en Europe, Justine Vassogne.
Longtemps, le manque de bornes de recharge aurait été un argument pour expliquer la faiblesse des ventes de voitures électriques. Aujourd'hui, celui-ci ne tient plus selon Transport et Environnement. La France a aujourd'hui rempli à 140% l'objectif fixé par l'Union européenne pour 2025, à savoir 1,3 kWh de recharge sur autoroute par voiture électrique. Des bornes réparties de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire en 2030. L'objectif fixé par Bruxelles est d'avoir des points de recharge rapide tous les 60 km, objectif déjà atteint à 87%. Tous les pays européens sont aujourd'hui en avance sur le calendrier. Seule Malte est encore à la traîne. À la fin de l'année dernière, l'Europe comptait plus d'un million de recharges publiques, 5 fois plus qu'en 2020. Quelques points noirs subsistent cependant. D'après Transport et Environnement, les prix au kilowatt ne sont pas toujours affichés sur les bornes. Autre problème, il n'est pas possible de payer par carte bleue sur certaines d'entre elles. Deux points qui seront rendus obligatoires à la fin 2027.
8h08, les marchés. À moins d'une heure de l'ouverture, pas de tendance claire ce matin, Nicolas.
Non, c'est en tout cas ce que laissent entendre les indices, les contrats futurs, pardon, sur les indices. On est à l'équilibre parfait sur le CAC 40 et sur le DAX dans le sillage des clôtures des indices européens hier, puisque le CAC 40 avait clôturé à l'équilibre, plus 0,02%. Le DAX, lui, avait clôturé à l'équilibre également, moins 0,063%. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces marchés européens sont globalement dans l'expectative de la réunion de politique monétaire de la BCE, dont la décision sera rendue jeudi. La BCE dont le marché s'attend à ce qu'elle laisse sa politique inchangée, mais dont le discours de sa présidente sera suivi de près, notamment sur le volet de la future potentielle hausse ou baisse des taux, non pas pour cette réunion dont le marché anticipe que ça ne changera pas grand-chose, mais peut-être pour les suivantes, en lien avec la hausse des cours du pétrole, l'impact de la recrudescence du conflit en Iran, mais aussi plus personnellement, puisque le marché suivra la suite potentielle de la carrière de Christine Lagarde, qui a laissé entendre il y a quelques jours qu'elle voulait peser dans le débat de la présidentielle française et notamment porter une voix européenne. Les marchés qui sont sans driver donc à l'heure actuelle, avec un prix du pétrole qui est toujours aux alentours des $88 pour le Brent et $84 pour le WTI. Les marchés qui sont toujours dans un questionnement autour des thématiques tech et semi-conducteurs, même si hier le CAC 40 a vu la plus forte hausse signée STMicroelectronics, plus 2%, ou encore Total Energy, plus 1%. À noter que les marchés asiatiques sont tous orientés dans le vert à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Nicolas. On se retrouve après 8h30 et pour le Club de la Bourse, évidemment, tout à l'heure. Culturia, tout de suite.
Good morning business. Culturia.
Alors, c'est un sujet hyper intéressant que vous traitez ce matin, Léa Benaïm. C'est les réseaux sociaux qui changent de stratégie face à ces vidéos générées par intelligence artificielle. Il y en a partout, ils veulent désormais être capables de les détecter automatiquement, Léa.
Et oui, vous l'avez dit, Sandra, impossible de passer à côté. Les réseaux sociaux sont devenus un vrai Far West de ces vidéos générées par IA, qui sont d'ailleurs toutes plus réalistes les unes que les autres. Et ce changement de stratégie de la part des plateformes n'est pas un hasard. À partir de dimanche prochain, le 2 août, une nouvelle étape de la réglementation européenne entre en vigueur, qui oblige à, je cite, marquer dans un format lisible les images et vidéos générées ou manipulées par IA et à signaler clairement celles qui constituent un deepfake. Concrètement, les plateformes vont devoir faire preuve de beaucoup plus de transparence, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 3% de leur chiffre d'affaires mondial. Alors, c'est pas totalement nouveau. Vous avez peut-être déjà remarqué cette petite mention créée avec l'IA ou contenu modifié par IA. Mais jusqu'à maintenant, les plateformes misaient en fait tout sur la bonne foi des utilisateurs. C'était à vous de les signaler. Sauf que ce système a très vite montré ses limites. Désormais, les réseaux sociaux devront être capables de repérer eux-mêmes ces contenus.
Mais ils y ont été obligés, donc évidemment. C'est toujours comme ça que ça marche. Comment les plateformes, Léa, vont s'y prendre pour repérer ces vidéos?
Alors, elles ont presque tout adopté les mêmes méthodes. La première, elle consiste à rechercher une empreinte numérique. En fait, c'est une sorte de signature invisible laissée par certains logiciels d'IA dans le code, un peu comme un tampon sur un passeport qui raconte par où est passée la vidéo. Et si elle a été créée avec une IA, la plateforme peut automatiquement ajouter un label pour le signaler. L'autre solution, tout simplement, utiliser une IA pour détecter une autre IA avec des modèles capables de repérer des anomalies, des lèvres dessinées synchronisé ou des incohérences dans l'image, des signes qu'on associe évidemment souvent à une vidéo IA. Et pour les réseaux sociaux, il y a aussi un autre enjeu, c'est protéger les personnes victimes de deepfakes. Pour ça, YouTube et TikTok travaillent sur des outils capables de retrouver toutes les vidéos où apparaît votre visage, et ce à partir d'une simple photo. Vous pouvez ensuite les signaler pour demander leur suppression, même si dans les faits, c'est pas toujours aussi simple.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, on pourra faire confiance à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Léa?
Malheureusement, non, parce que ces outils ne sont pas infaillibles. Surtout que les générateurs de vidéos IA progressent à une vitesse folle et deviennent de plus en plus simples d'accès. En fait, en réalité, les réseaux sociaux ne peuvent pas promettre de les faire disparaître. C'est d'ailleurs pour ça que le règlement européen ne les interdit pas, mais oblige à de la transparence. Les plateformes peuvent seulement faire en sorte de nous donner davantage d'indices pour que nous puissions les reconnaître et ainsi les regarder tout en connaissance de cause. Et s'ils investissent autant dans ces outils, c'est pas seulement pour éviter une amende, c'est aussi parce que leur crédibilité est en jeu. Si les utilisateurs ne savent plus distinguer le vrai du faux, c'est la confiance dans la plateforme elle-même qui disparaît.
Oui, les règles vont être un petit peu plus claires, ça changera pas grand-chose, mais au moins on saura. Merci beaucoup Léa, vous restez avec moi évidemment, c'est la French Tech.
Good morning business, French Tech.
Et nous recevons Firmin Zocchetto, cofondateur et directeur général de Payfit. Bonjour.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous recevoir pour cette nouvelle de la rentabilité.
Oui.
WeSings nous disait la même chose la semaine dernière. C'est très intéressant que les startups commencent enfin à être rentables. Pendant très longtemps, vous accueillez parce que vous leviez beaucoup de fonds. Aujourd'hui, ça y est, la rentabilité est là.
La rentabilité pour Payfit après 10 ans. Donc effectivement, c'est une belle étape, mais ça marque surtout le début en fait d'une nouvelle phase, puisqu'on a aussi annoncé que on passait d'un logiciel à un service de PRH opéré par l'IA et par nos experts pay. Et ça, c'est la vraie nouvelle. Et c'est cette rentabilité qui nous permet en fait d'investir dans la transformation de notre modèle et d'inventer le futur en fait de la paie et des RH avec nos clients, les 22 000 entreprises qui nous font confiance.
Question de Léa.
On entend de plus en plus dire que le logiciel est mort avec l'IA. Est-ce que c'est pour ça que vous basculez votre stratégie pour devenir un service complet augmenté?
Alors, je pense pas que le logiciel soit mort. Je pense qu'en revanche, on peut construire sur les logiciels qu'on a développés, par exemple, chez Payfit depuis 10 ans, qui était un logiciel de paye qui permet à des non-experts en paye, des entrepreneurs, de faire la paye. En fait, on peut construire un service augmenté par l'IA, augmenté par nos experts paye pour donner aux clients PME ce qu'ils attendent dans ce nouveau monde. On est en 2026, il y a l'IA, on fait plus ses virements à la main, on fait plus ses fiches de paie sur papier, on pose plus ses congés quand on est salarié à la machine à café. Et donc, en fait, les clients attendent d'avoir des outils en fait dignes de 2026. Et c'est là que le service qui vient ajouter une couche en fait d'expertise, de tranquillité, de conformité, de je prends en charge vos opérations de paie, la collecte de vos variables de paie quand vous êtes une entreprise, au-dessus d'un logiciel, là, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous combinez le meilleur des deux mondes, du logiciel et du service, en fait.
Vous comptez Vous visez 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 2 ans. Comment vous comptez doubler ce chiffre d'affaires? Vous l'avez dit, vous allez passer à finalement une prise en charge assez complète de la vie du salarié. Concrètement, ça va passer par quoi? Vous avez commencé à nous en parler.
Oui, bon, déjà, il y a le passage d'un simple logiciel de paie que nos clients pouvaient utiliser pour faire leur paie à un service complet de paie et RH. Donc ça, c'est une tranquillité d'esprit, une conformité qui est assez différente. On va pouvoir s'adresser en fait à toutes les entreprises, pas seulement les créateurs d'entreprises ou les entreprises qui ont quelques dizaines de salariés, même celles qui grandissent, celles qui n'ont pas envie de gérer leur paie. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, quand on est une équipe RH, on ne gère pas, on ne crée pas sa boîte pour faire ses fiches de paie. Mais c'est une obligation. On a l'obligation d'être conforme, de payer ses salariés en temps et en heure, de payer l'URSSAF, sinon on a quelques soucis quand on est entrepreneur. Et donc, en fait, on va élargir le champ des entreprises à qui on s'adresse avec ce service. Et puis, on va également, avec Payfit AI, développer un véritable compagnon opérationnel qui est là, en fait, 24 heures sur 24 et à qui vous pouvez demander. Par exemple, hier, j'avais envie de savoir dans quelles équipes on partait le plus en vacances au mois de juillet dans ma boîte. Bon, bah, j'ai demandé à Payfit AI, j'ai eu la réponse de manière structurée en quelques secondes.
Alors, ça répond aux questions du dirigeant, ça répond aussi aux questions des salariés ?
Aux questions des salariés aussi, parce qu'en fait, on pense que le travail des dirigeants ou des équipes RH ne devrait pas être d'expliquer pourquoi les RTT posés à cet endroit-là ont été décomptés de telle sorte sur le compteur. On a envie de faire gagner du temps à tout le monde. On a envie que les salariés aient leurs réponses en temps réel. On a aussi envie que les dirigeants, les équipes RH, passent du temps à développer leur activité de fleuriste, à être boulanger ou leur plus grosse PME, plutôt que de répondre à des questions d'admin, des questions RH qui peuvent être aujourd'hui directement accessibles à n'importe qui.
Comment vous allez rester compétitif face à cette vague des agents IA? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise peut programmer des agents IA directement dans ses outils internes et ne pas passer par Payfit. Et surtout, il y a une question de protection des données. Comment vous trouvez votre plus-value?
Alors, je pense que tous les logiciels et les services ne vont pas être soumis à la même évolution. C'est vrai que quand on parle de paye, de calcul, de cotisation, il y a des milliards de combinaisons possibles en France. On est branché aux organismes sociaux. Donc, on n'a pas la même complexité et droit d'entrée. Je vois mal aujourd'hui un boulanger ou un restaurateur commencer un dimanche après-midi en fait à bricoler un logiciel de paye ou un agent IA, même si c'est devenu plus facile aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose quand même. Il y a une barrière à l'entrée qui n'est pas neutre en matière de paye. On a bien sûr l'IA, les nouvelles technologies, 10 ans de logiciel, mais on a surtout 200 experts en paye qui travaillent chez Payfit en France. C'est l'une des plus grandes équipes d'expertise paye dans le pays. Et en fait, c'est quelque chose qui rassure nos clients, qui permet de garantir la conformité. Quand vous avez une question, vous avez une réponse rapidement, on prend le téléphone pour vous répondre. Donc, on est dans un monde où, oui, la technologie, les agents IA se développent, sont extrêmement importants. Je vous donnais un exemple avec la demande que j'ai faite hier. Mais on a aussi besoin d'avoir encore plus d'humains, encore plus de rassurance et d'expertise sur un sujet qui est aussi clé que la paye. Donc ça, c'est vraiment sur ce sujet de IA et expertise.
Alors, j'ai lu que ces changements n'allaient pas être financés par une nouvelle levée de fonds. C'est les nouveaux clients qui vont financer tout ça?
Les nouveaux clients, effectivement, on a montré ces 10 dernières années qu'on avait un modèle pérenne, on est rentable, on a les moyens de financer de nouveaux investissements. Par exemple, on va, dans les prochains mois, laisser nos clients gérer leur freelance, souscription, gestion de mutuelle prévoyance, la commande d'un ordinateur aussi ou d'un téléphone portable, parce que ça aussi c'est très pénible. Vous avez un salarié qui rentre, en fait il faut aller chercher à la FNAC un ordinateur, le paramétrer. En fait, ça pourrait être un clic sur Payfit. Et donc ça, on a envie, tout ce qui touche à la gestion en fait des personnes qui travaillent dans une entreprise, on a envie que ça soit centralisé sur Payfit et que les dirigeants et les équipes RH puissent en quelques clics en fait, avoir la transparence, avoir la connaissance, tout en n'ayant pas le poids de la conformité, le poids de la responsabilité de la paye sur les épaules. C'est ça, en fait, le nouveau Payfit qu'on annonce en ce moment.
Merci beaucoup, Firmin Zucchetto, d'être venu nous en parler ce matin, cofondateur et directeur général de Payfit. Dans un instant, parole de patron, on va parler de jeux vidéo et de Micromania.
Good morning business, parole de patron.
Je reçois Philippe Renaudin, directeur marketing et de la communication de Micromania Zing. Bonjour.
Bonjour.
Micromania, ça a été créé en 1983, spécialiste du jeu vidéo. Et votre actu, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que Micromania a été racheté par un consortium d'investisseurs franco-canadiens. L'univers du jeu vidéo se modifie énormément aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle aventure de Micromania ?
Alors effectivement, on a été racheté il y a quelques semaines maintenant. Après, effectivement, ça fait... Micromania existe depuis 1983, vous l'avez signalé. Donc, c'est une marque emblématique du paysage français en ce qui concerne la partie jeux vidéo. Mais effectivement, c'est un marché qui est en pleine mutation. Et notre activité est en mutation, et notamment autour d'une passion commune qui est la pop culture. Et le fait qu'au-delà de la partie jeux vidéo, il y a tout un pan de notre activité autour des produits dérivés, des trading cards, comme on dit, des cartes à jouer et à collectionner, qui sont un phénomène incroyable. Les cartes Pokémon, récemment, on parlait de la Coupe du Monde, les cartes Tops ou Panini.
Ouais.
Tout ça, ça fait partie des phénomènes qui se croisent chez nous et qui font qu'effectivement, notre modèle évolue.
Oui, c'est en train de pivoter légèrement parce que le jeu vidéo physique va être appelé probablement à disparaître. Certaines marques, donc Sony, ont dit que ça allait disparaître. D'autres vont certainement suivre. Donc c'est ça, ça va être les cartes à collectionner, ça va être les produits dérivés qui va être le centre du business maintenant de Micromania.
Alors, le jeu vidéo n'est pas terminé, hein, y compris dans sa version physique.
Oui.
Là, on parle de PlayStation, mais à côté de ça, il y a aussi Nintendo, qui est très axé sur le physique et qui le reste et qui le restera encore un bon moment. Il y a une évolution autour de la digitalisation. Ça, c'est pas nouveau. On le savait déjà depuis un petit moment. On avait déjà fait un premier move il y a à peu près une dizaine d'années avec l'introduction justement des produits dérivés dans nos magasins, avec le changement de la marque en Micromania, Micromania Zing. Maintenant, justement, pour mettre en avant cette dimension pop culture. Alors, effectivement, ça évolue et partie la partie importante de notre plan, notamment avec le rachat, c'est d'intensifier, garder le jeu vidéo. Ça fait partie de notre ADN. Hein, c'est le socle de notre activité et de notre modèle. Mais derrière, de développer considérablement cette dimension produits dérivés et cartes à collectionner.
J'ai lu que vous alliez garder les magasins, que le parc de magasins allait rester, que c'était une des priorités, une optimisation peut-être du parc de magasins. En tout cas, physiquement, ils vont être là. Est-ce qu'il va y avoir des ouvertures ou est-ce qu'on va déjà gérer les 300 qui existent ?
Alors oui, c'est un élément essentiel dans notre modèle.
Il faut être présent physiquement, les recevoir ses clients.
Notre objectif, c'est d'être à 15-25 km maximum de nos clients. Donc, on est en train de travailler à une optimisation, mais un redéploiement et une rénovation de notre parc actuel. Et puis, effectivement, l'objectif du rachat, c'est l'ouverture de nouveaux magasins, et notamment des magasins beaucoup plus grands, ce qu'on appelle des flagships, qui seront des superficies beaucoup plus grandes, mais surtout une nouvelle approche, une nouvelle dimension, avec une expérience totalement différente de ce que l'on peut connaître aujourd'hui dans nos magasins.
Il y aura des animations, j'ai lu.
Beaucoup d'animations, oui. Ça fait partie de notre ADN, les animations, pour ceux qui ont l'habitude d'aller chez nous. Il se passe toujours quelque chose dans les magasins Micromania Zing, avec des animations régulières. Mais là, on va passer un cran, avec des animations toutes les semaines, en permanence, et notamment dans ces magasins flagship, avec des mises en avant en fonction de l'actualité. Et puis, à côté de ça, on réfléchit également à la création d'une structure événementiel pour créer, être présent dans des événements qui existent aujourd'hui. On était récemment à la Japan Expo, on sera à la Paris Games Week sur la fin d'année. Mais on veut également créer nos propres événements autour de la pop culture parce qu'on estime qu'effectivement, en tant que marque leader, notre objectif, c'est de partager cette passion avec le plus grand nombre et d'impliquer au maximum les communautés et nos clients.
Oui, là, on disait tout à l'heure avant l'interview, les joueurs ont principalement autour de la cinquantaine. Ce sont des joueurs qui ont commencé enfant dans les années 80. Ils sont encore là, ils seront peut-être encore là dans 20 ans devant leur console.
Ouais, j'en suis sûr, ils seront toujours là. Ce sont des passionnés. Quand on est passionné à tout âge. Alors effectivement, aujourd'hui, on a une moyenne d'âge qui a considérablement évolué autour des 40-50 ans en ce qui concerne le jeu vidéo, mais pas que. Toute la pop culture que j'évoquais, les licences des films, des séries, des animés, de la BD qu'on retrouve à travers notamment les produits dérivés et les cartes. Et ça, c'est transgénérationnel, hein, 77 ans, ça fait effectivement partie des clients qu'on a régulièrement dans nos magasins.
Premier loisir des Français, les jeux.
Absolument.
Merci beaucoup, Philippe Renaudin, directeur marketing et communication de Micromania Zing, d'avoir été dans la matinale de l'économie.
Good morning business. Le journal.
Un peu plus de 8h30, je suis en retard. Les titres, Léo.
Les Houthis promettent un blocus à l'Arabie Saoudite dans le détroit de Bab el-Mandeb. On verra quels sont les risques pour le pétrole dès le début de ce journal. Le remplissage des stocks de gaz est bien engagé en Europe, mais il se fait au prix fort. Et puis, amende record de la Commission européenne contre AliExpress. C'est donc la 10e nuit consécutive de frappes américaines en Iran qui s'est achevée au même moment. C'est peut-être un nouveau front qui est en train de s'ouvrir du côté de la mer Rouge. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé hier un blocus maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, précisément contre l'Arabie Saoudite. Alors pas plus de détails à ce stade sur la mise en œuvre, ni d'effet sur les cours du pétrole, mais Nathan Cocampo, c'est quand même un risque de plus pour le commerce pétrolier.
La mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, c'est l'option B pour exporter le pétrole d'Arabie Saoudite. Depuis le blocage d'Hormuz, des millions de barils transitent par oléoduc d'est en ouest vers le port de Yanbu avant de partir en bateau vers les différents clients du royaume. Plus de 4 millions de barils par jour ont transité par ce passage le mois dernier. Pour le moment, pas de blocage donc, mais la situation est surveillée de près et une coalition menée par l'Arabie Saoudite est sur le pont pour défendre les navires au large. Toutes les menaces houthis contre les navires en transit seront traitées rapidement et fermement. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la coalition sur X.
La mer Rouge était évitée par les transporteurs commerciaux jusqu'ici, Nathan.
Oui, Sandra, avec la multiplication des attaques de rebelles, les navires se sont peu à peu retirés de cette zone. Il y a 4 ans, 10% du commerce maritime mondial passait par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie le canal de Suez et donc l'Europe vers l'Asie. On est tombé à 3% aujourd'hui. Les navires préfèrent contourner cette zone à risque en passant par le sud de l'Afrique. Un trajet plus long de 2 semaines, plus coûteux donc, mais plus sûr. Mais pour le pétrole, pas le choix. L'Arabie Saoudite a 2 options, Hormuz ou Bab el-Mandeb. Une crise simultanée dans ces deux zones pourrait menacer l'acheminement de millions de barils et provoquer un choc bien plus important. On n'y est pas encore et l'annonce de ce blocus n'a pour le moment pas d'incidence particulière sur le prix du Brent autour des 88 dollars.
Et 88 dollars pour le pétrole, ça reste loin effectivement des plus hauts niveaux connus cette année au plus fort de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, sur les cours du gaz, là, on a retrouvé les derniers records sur le marché européen. Hier, les craintes d'approvisionnement semblent bien relancées alors que le continent remplit ses stocks. Mathieu Pechberti.
La guerre en Iran repart au plus mauvais moment pour les Européens. Les cours du gaz sont repartis à la hausse ces derniers jours et hier, l'indice européen TTF a franchi le seuil symbolique des 60 euros le mégawatt-heure, 1 euro en dessous du record du mois de mars. Les marchés craignent pour l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Les stocks sont en pleine saison de remplissage alors qu'ils étaient au plus bas à 20% après un hiver rigoureux. Ils viennent tout juste de passer la barre de 50% en moyenne dans l'Union européenne, sauf pour l'Allemagne qui reste en retard alors qu'elle est le plus gros consommateur de gaz en Europe. Le remplissage est confronté à une demande de gaz plus élevée cet été. La canicule couplée à l'absence de vent a conduit à relancer de nombreuses centrales à gaz en Europe pour assurer la climatisation. Mais les gaziers se veulent rassurants malgré la fermeture du détroit d'Hormuz. Le français Engie estimait il y a quelques semaines que remplir les réserves à 70% suffirait pour passer l'hiver prochain.
8h35, la Commission européenne dégaine encore une très grosse amende en vertu du DSA la plus élevée, même après les 120 millions d'euros contre le réseau social X et les 200 contre Temu. C'est là une autre plateforme chinoise qui est sanctionnée, Noah Domain.
Une amende record de 550 millions d'euros contre AliExpress. Il s'agit là de la plus lourde sanction prononcée par Bruxelles depuis l'entrée en vigueur du Digital Service Act, le règlement européen sur les services numériques adopté en 2022. La Commission européenne s'appuie sur une enquête ouverte en mars 2024 où elle estime que la filiale du géant chinois Alibaba disposait d'un système défaillant pour détecter les produits illégaux mis en vente sur sa plateforme. Résultat, des jouets dangereux, des cosmétiques à risque ou encore des vêtements contrefaits sont restés en vente pendant de longues périodes. Les vendeurs mal intentionnés pouvaient également contourner les systèmes de vérification mis en place par la plateforme. AliExpress juge cette demande disproportionnée sans préciser à ce stade si l'entreprise compte faire appel. Désormais, la plateforme dispose de 3 mois pour présenter des mesures de mise en conformité sous peine de nouvelles sanctions financières.
Le premier jour du salon de Farnborough hier et le loueur SMBC Aviation Capital n'a pas fait de jaloux. Il commande 100 appareils à Boeing des 737 MAX et 100 autres à Airbus des A320 et 21 Neo, le constructeur européen qui annonce aussi un contrat pour 6 modèles A350 avec la compagnie saoudienne Riyad Air.
La Coupe du Monde, c'est fini, Léo, hein, mais certains ont déjà le regard tourné vers la prochaine, dans 4 ans.
À commencer par le Maroc, qui co-organise cette édition 2030 et qui, d'ici là, veut doper ses structures hôtelières pour mieux tirer profit de l'événement, Justine Bassogne.
Quart de finaliste cette année, demi-finaliste en 2022, le Maroc compte bien tirer parti de la Coupe du Monde qu'il organise avec l'Espagne et le Portugal en 2030. La ministre du Tourisme n'a d'ailleurs pas perdu de temps dès hier au lendemain de la finale. Le pays veut créer 60 000 nouveaux lits d'ici à 4 ans, a-t-elle expliqué, soit augmenter d'un cinquième sa capacité hôtelière actuelle. De 2022 à 2026, 45 000 lits ont déjà été ajoutés. Le Maroc voit grand. Il compte attirer 26 millions de visiteurs en 2030, soit 6 millions de plus que l'année passée. Pour cela, le Royaume a massivement investi près de 18 milliards d'euros en infrastructures de transport. Il veut aussi diversifier son offre, développer le tourisme dans sa capitale de Rabat, qui accueillera plusieurs matchs. Le Maroc mise aussi beaucoup sur son futur stade Hassan II, enceinte ultra-moderne de 115 000 places en construction dans la banlieue de Casablanca. Un projet de plus de 10 milliards d'euros qui constitue un argument de poids pour accueillir la finale. La FIFA n'a pas encore tranché et le Maroc est en compétition avec l'Espagne et le stade Bernabéu du Real Madrid.
8h38, les marchés.
Votre rendez-vous avec N2F, la solution qui simplifie vraiment la gestion de vos notes de frais. Plus d'infos sur n2f.com.
Ils sont pas décidés ce matin, les marchés, Nicolas.
Non, on reste toujours sur des contrats futurs qui laissent effectivement entendre que les marchés ouvriront proche de l'équilibre, que ce soit pour le CAC 40 ou le DAX. On est sur une tendance similaire à ce qu'on avait vu hier en clôture, hein, sur le CAC 40, plus 0,02% et le DAX, moins 0,063%. Dans un contexte de questionnement autour, déjà sur le sujet du pétrole, avec un baril de Brent qui est aux alentours des 88 dollars, tandis que le WTI est, lui, aux alentours des 82 dollars, avec d'un côté les tensions toujours présentes au niveau du détroit d'Ormuz, mais de l'autre les questionnements au niveau d'un autre détroit, celui de Bab el-Mandeb, où les Houthis ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie Saoudite. Les marchés sont-ils trop optimistes sur le pétrole à l'heure actuelle? C'est une des questions qu'on pourra évoquer dans un instant. Au-delà de ça, les marchés européens sont sinon dans l'expectative de la réunion de politique monétaire de la BCE. La décision sera rendue jeudi. Le marché s'attend à ce qu'elle laisse sa politique inchangée, mais on suivra quand même le discours de sa présidente Christine Lagarde, notamment sur l'impact de la recrudescence du conflit en Iran sur les prochaines réunions de politique monétaire de la BCE, mais aussi sur un volet plus personnel. Christine Lagarde ayant laissé entendre il y a quelques jours vouloir peser dans le débat de la présidentielle française. Un modéto, l'OAT 10 ans est toujours aux alentours des 3,94%. Au Royaume-Uni, les marchés obligataires se sont tendus pour le premier jour d'Andy Burnham hier en tant que Premier ministre. Il a notamment évoqué dans son premier discours plus de dettes et plus de dépenses. Cela a également fait reculer la livre. Et du côté des marchés asiatiques, on est toujours orienté dans le vert à l'heure actuelle. Le Nikkei gagne plus de 3%. Le Shanghai Composite gagne plus de 1,4%.
Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve dans un instant avec Christian Parizeau et Béatrice Gedge pour le Club de la Bourse. Mais tout de suite, c'est le monde qui bouge.
Good morning business. Le monde qui bouge.
Avec Annalisa Capellini, nous parlons de ce déplacement. Le président libanais Joseph Aoun va rencontrer Donald Trump à Washington aujourd'hui. Cette visite a un but précis pour le président libanais, s'assurer du soutien américain dans la lutte contre le Hezbollah et la reconstruction du pays. La question c'est, est-ce que Donald Trump peut débloquer cette situation ?
Joseph Aoun l'espère et tout dépend d'une question en réalité. Est-ce que Donald Trump va accepter de faire pression sur son allié israélien pour qu'il se retire progressivement du sud du Liban? Parce que le nœud de la question finalement, c'est le désarmement du Hezbollah. Les Libanais considèrent qu'il sera très compliqué de désarmer le Hezbollah tant que les Israéliens seront encore dans le sud du pays. Et les Israéliens, pour l'instant, refusent de se retirer tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Donc vous voyez, la situation est très bloquée. C'est pour ça que Joseph Aoun mise tout sur cette visite à laquelle il va arriver avec un plan très précis, un plan de désarmement du Hezbollah avec un calendrier d'application pour montrer que lui fait sa partie du travail. Le but, c'est de débloquer la situation en forçant Donald Trump de mettre la pression nécessaire sur Israël. Je cite les mots de Joseph Aoun juste avant le début du voyage, parce que Donald Trump est peut-être le seul à avoir le poids politique nécessaire pour le faire.
Oui, il a intérêt à avoir une bonne carte sur ce désarmement, parce qu'il a besoin des États-Unis pour reconstruire le pays, Joseph Aoun.
Oui, et ça sera un chantier immense parce que la guerre elle-même a eu un coût immense. Le gouvernement estimait que les derniers combats ont causé entre 3 et 4 milliards de dégâts, des dégâts seulement directs. Donc il faut rajouter tous les dégâts indirects et ça s'ajoute aux plus de 8 milliards de dollars de dégâts du précédent conflit. Voici pour l'ampleur de la destruction. Donc vous imaginez bien qu'il y a une ampleur de la reconstruction qui correspond. La Banque mondiale estimait le coût à 11 milliards de dollars début mars. Donc c'était au tout début de la guerre en Iran et donc aussi du conflit contre le Hezbollah. On peut raisonnablement imaginer que ça a augmenté depuis. Cette reconstruction, il faut aussi savoir qui va la financer. En 2018, on avait promis au Liban 11 milliards de dollars de prêts et de dons pour soutenir l'économie libanaise, pour relancer la croissance. Or, cet argent n'a jamais été versé. C'est pour ça que Joseph Aoun, aujourd'hui, ne va pas demander un chèque à Donald Trump ou une promesse. Ce qu'il espère, c'est que le soutien du président américain va rassurer les investisseurs et les entreprises privées qui, elles, ensuite, peuvent investir sur place et participer à la reconstruction, la financer.
L'autre question, c'est est-ce que le Hezbollah va céder ?
C'est évidemment tout le sujet, absolument pas pour l'instant. Au contraire, pour l'instant, le Hezbollah refuse toujours de rendre les armes. Le Hezbollah rejette aussi, pour l'instant, les négociations directes entre Beyrouth et Tel Aviv. Donc sur le terrain, ça reste compliqué et en même temps, ça avance du côté de la diplomatie parce qu'à Washington, on salue les efforts de Beyrouth. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine qui a rencontré Joseph Aoun en amont pour préparer la rencontre, a félicité le gouvernement libanais, je le cite, pour son courage dans la volonté de désarmer le Hezbollah et de rétablir la souveraineté de l'État libanais. Donc toute la stratégie aujourd'hui du président libanais repose sur un pari, celui de renforcer progressivement l'État grâce aux Américains pour convaincre aussi au Liban que l'armée peut finalement remplacer le Hezbollah. Donc c'est ça que Donald Trump va décider finalement aujourd'hui avec son comportement, sa promesse, sa signature éventuellement, jusqu'où les États-Unis et jusqu'où Donald Trump seront prêts à accompagner ce pari libanais.
Merci beaucoup Annalisa Cappellini, chronique à retrouver en replay évidemment sur notre appli, sur notre site.